Quel type de conducteur êtes-vous ? Êtes-vous plutôt un addict des sensations fortes, un amoureux de l'innovation et des new tech, un aficionados du confort et de l'efficacité ou un inconditionnel de l'esthétique et de la légende d'une marque ou d'un modèle ? Si les voitures électriques ont longtemps été réservées aux early adopters, ces fous de nouvelles technologies qui étaient prêtes à tout pour se retrouver derrière le volant de ces bolides, quitte même à faire l'impasse sur le confort, le design et les performances, aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Bienvenue à tous, vous écoutez notre podcast La voiture du futur. Quatre poids lourds de l'industrie automobile acceptent de dévoiler leur vision de la voiture de demain, celle qui sortira des usines dans 5 ans. À chaque épisode, pour challenger notre expert automobile, un expert transversal ouvrira le sujet et la réflexion. Embarqué sur le siège passager, Adèle Lassouli vous emmène à la rencontre de ceux qui conçoivent nos voitures, objets de liberté, vecteurs de rêve. 4 épisodes, 8 experts pour anticiper le futur et assembler la voiture de demain. C'est parti!
Bonjour à tous, je m'appelle Adèle Lassouli et je reçois pour cet épisode 2 invités de choix. Le premier est directeur Skoda Belgique et il s'appelle Thierry De Vleeschhouwer. Bonjour Thierry.
Bonjour, enchanté.
Mon second invité est Erwin Olivier, vous êtes stratégie et change consultant chez Etias. Bonjour Erwin.
Bonjour.
Merci d'être là, soyez les bienvenus. Alors on a bien bouclé nos ceintures, on est confortablement installé. Mais avant d'avancer sur l'autoroute de la voiture du futur, on va essayer de faire connaissance et on a envie de savoir, à travers votre autobiographie, quelle a été, Thierry, votre première voiture ?
Alors, ma première voiture était une Honda Civic de 1600, 130 chevaux, lequel j'avais épargné longtemps.
Une petite bombe, ça, 130 chevaux.
C'était une petite bombe, mais j'aime bien les chouettes petites voitures.
Alors, actuellement, j'imagine que vous roulez en Skoda ?
Oh oui, tout à fait, mais je roule en Skoda électrique, l'Enyaq, depuis 3 ans.
C'est un SUV, ça ?
C'est un SUV électrique.
Et votre voiture de rêve ?
Alors, la voiture de rêve par excellence pour moi est une Porsche 911 des années 80. Donc, un oldtimer en noir, un peu comme celle des Bad Boys.
Et donc ça ne peut être que forcément qu'une voiture thermique.
Ah oui, ça, là, oui. Là, sur le coup, on n'est que sur du thermique.
Je me tourne vers vous, Erwin. Votre première voiture ?
Ah, pour moi, c'est la nostalgie. C'était une Renault 8, toute jeune. Elle avait 16 ans déjà. Je l'ai eue gratuitement d'un copain qui voulait s'en débarrasser. C'était une voiture qui était très voyante. Mais ce qui avait le plus de succès, c'est que je pouvais encore la démarrer avec un manivelle quand la batterie était un peu faible.
Donc là, on est Renault 8, c'est les années 70, ça ?
La voiture était des années 70, oui.
Aujourd'hui, vous avez, j'imagine, fait aussi un bond dans les années, vous ne roulez plus avec une voiture des années 70 ?
Je suis en transition, en fait, comme beaucoup de gens. Donc je roule maintenant dans une GLE hybride et je suis en attente d'une EQE pour passer en full électrique.
Une GLE, c'est la marque, c'est une Mercedes ?
C'est une Mercedes, oui.
D'accord, très bien. Et votre voiture de rêve ?
Je rejoins un peu l'idée de mon collègue. C'est une Citroën DS électrifiée.
C'est-à-dire que c'est le châssis des années 70, mais avec une motorisation ou plutôt une technologie actuelle, quoi.
Voilà, il y a de plus en plus de sociétés qui s'investissent là-dedans ou qui transforment les classiques en voitures électriques.
Alors, saviez-vous que la première voiture électrique, la vraie, date de 1834 ? Pas de siège confortable, d'autoroute bien lisse, ni d'assistance à la conduite à l'époque. Et pas de moteur à explosion non plus d'ailleurs, car les premiers datent de 1861. Bref, la voiture a connu des évolutions incroyables et aujourd'hui, on connaît un nouveau virage important avec l'électrique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde n'est pas encore prêt. Alors, je me tourne vers vous, Erwin. Est-ce que vous ressentez des résistances encore aujourd'hui par rapport à cette électrique ?
Oui, mais je parlerai plutôt d'hésitation que de résistance. Avant, quand on recevait le mail de sa société en disant vous avez une nouvelle voiture de société, c'était la joie. Les gens se déplaçaient en vitesse pour faire leur choix, sélectionner la voiture qui leur plaisait. Maintenant, on voit que les gens, ils traînent un peu les pieds. Ils essayent de tirer sur la corde, de garder la voiture, pas parce qu'ils sont contre la voiture électrique, mais il y a tellement d'inconnus, tout leur cadre de référence a changé. On parle dans un jargon qu'ils ne comprennent pas. Et il y a beaucoup de mythes et beaucoup de fausses croyances sur la conduite d'une voiture électrique.
Mmh. Lesquels, par exemple ? On va beaucoup développer, mais...
La plupart des gens choisissent leur voiture en fonction de leurs besoins extrêmes. le déplacement en vacances. J'ai besoin d'une grosse voiture parce que je me déplace avec toute ma famille dans le sud de la France. Ce qui est marrant, quand on suit un peu les réseaux sociaux des gens qui sont passés dans l'électrique, j'ai vu des commentaires dans lesquels ils disaient « Moi, je suis passé pour la première fois dans le sud avec ma voiture électrique et croyez-moi, je perdais moins de temps en rechargeant ma voiture que tous les gens en voiture thermique qui faisaient la file pour faire le plein. »
On va en parler, Thierry, ça c'est un gros facteur justement d'hésitation, comme vient d'expliquer Erwin. Il y a beaucoup de gens finalement qui calquent leurs besoins sur le besoin le plus extrême, on va dire, de leur utilisation de véhicule. On ne roule pas 200 km par jour. Et donc là, il y a forcément des besoins qui sont très différents en fonction de l'année.
Ben, effectivement, hein, donc, mais ça a toujours été, hein, quand c'était voiture thermique aussi, il fallait la grande voiture parce qu'une fois par an ou deux fois par an, on partait en vacances, il fallait pouvoir loger toute la famille. Et donc, ça n'a pas changé dans le mindset des gens. Ce qui se passe, et là, je rejoins tout à fait Erwin, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui parce que les gens changent de voiture. Mais si on passe à l'électrique, ça veut aussi dire qu'il faut un peu changer son style de vie. Il faut être un peu plus prévoyant en sachant, ah tiens, si demain je dois faire un long trajet, bah, je veux quand même la charger, etc. Mais quand on parle en Belgique de long trajet, il faut savoir qu'en moyenne, le Belge roule en moyenne 30 km par jour. Donc des autonomies de 400, 500, 600 km sont amplement suffisantes pour le besoin journalier. Et même pendant les vacances, on voit que toutes les stations-service, etc., l'État investit dans des bornes de recharge, charge rapide. Donc il y a de plus en plus de bornes également, ce qui rend l'autonomie, en fait, ça devient un peu un point annexe, vu qu'on a la possibilité de charger pratiquement partout.
Alors, on l'a compris, il y a une dimension psychologique. Comment vous êtes outillé justement pour travailler et pour faire passer ce message de manière plutôt rationnelle? Parce que ça, c'est aussi un des grands défis.
Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on essaye de faire chez Skoda, c'est d'offrir un clé sur porte. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui passent en électrique. Et donc nous, on essaye, via nos réseaux de concessions et nos vendeurs, de vendre la voiture avec tous les services annexes liés à la voiture. Donc on a aussi la possibilité d'avoir des bornes de recharge, parce qu'il faut quand même avouer qu'avoir une borne de recharge à la maison, c'est quand même un confort quand on a une voiture électrique. C'est pas possible partout, hein. Il y a des gens qui habitent dans des appartements, des gens qui habitent en ville, dans des maisons où on n'a pas forcément la possibilité de mettre une borne. Et donc là, il y a aussi l'État qui doit jouer. Mais donc, chez nous, le but est vraiment d'expliquer et de vendre un full package, la voiture, service annexe, et bien expliquer aux gens comment fonctionne un véhicule électrique, parce que le pas est quand même assez grand.
On va parler des bornes de recharge encore dans un instant, mais je me tourne vers Erwin. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire tomber ces facteurs d'hésitation ou de résistance? Ça va passer par quoi? On a parlé de l'autonomie, de la recharge, mais est-ce qu'il y a un message plus général que vous essayez de faire passer en tant que notamment consultant en changement?
Il faut surtout informer les gens. Et tant le secteur automobile que le secteur leasing a encore des grands pas à faire parce que ils sous-estiment l'aspect de transition et la rupture des habitudes que le passage à la conduite électrique suggère. Parce que les voitures électriques ne sont pas d'hier. Il y a déjà depuis 8-9 ans des voitures électriques sur le marché. Il y a des utilisateurs qui l'utilisent depuis des années. Mais ce que les gens oublient dans cette approche, c'est que tous ces gens-là sont des précurseurs qui sont prêts à accepter les petits défauts, ils font les recherches, ce sont des passionnés de technologie, d'innovation, et donc ils se débrouillent pour trouver des solutions. Maintenant, tout le business doit passer en voiture électrique, et donc il y a toute une partie qui n'a pas cette attitude, qui attend une voiture de société tout équipée pour laquelle il n'y a pas de questions à poser, et il y a des gens qui sont vraiment résistants, mais pour moi c'est une minorité.
Et est-ce que le véhicule électrique ne souffre pas aussi de l'élitisme et du marketing très élitiste? Est-ce qu'on n'est pas justement dans ce paradoxe aujourd'hui, c'est que la voiture électrique ne semble plus si élitiste que ça, mais qu'en même temps, paradoxalement, on a encore cette image?
Moi, je la compare toujours à l'iPhone, comparé au mobile d'avant. Et maintenant, l'iPhone est devenu un outil de travail comme tous les téléphones traditionnels. Donc oui, il y a toujours cette historique qui traîne un peu. Ça, c'est aussi l'effet de Tesla et la manière dont les voitures ont été positionnées, vraiment que les autres ne pouvaient pas se permettre. Mais on voit quand même, et je crois que le changement de la fiscalité et l'embarras des choix de voitures électriques qui arrivent chaque année de plus en plus riches va rapidement changer ce positionnement.
L'une des principales questions que Thierry Devleschauer vient de soulever, c'est la question des bornes de recharge. Vous disiez que vous proposiez ce service, Thierry. Est-ce que c'est en train de prendre? Est-ce que à côté des véhicules vendus, les bornes vendues et installées?
Oui, tout à fait. Donc on remarque que le package qui est offert par les employeurs aux employés dans le cadre des véhicules de fonction et véhicules business, on va dire, c'est un package complet où on met également la borne dans le package de leasing. Donc ça devient quand même, on va dire, commun. C'est vrai qu'avoir une borne à la maison, c'est vraiment un grand avantage. Maintenant, je remarque aussi que les pouvoirs publics s'investissent aussi. Hein, donc il y a moyen, quand on habite une rue et qu'on a une voiture électrique, on peut demander d'installer une borne s'il n'y a pas de borne dans les X centaines de mètres, je pense que
200 mètres.
Voilà.
Quels sont les facteurs importants avant de pouvoir se dire « Ok, je vais pouvoir installer une borne de recharge chez moi ». Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont tout de suite excluants ou est-ce que, comment vous procédez en quelques mots ?
Bon, il y a d'abord, on va dire, l'analyse de l'habitation qui est faite par des auditeurs expérimentés. Le réseau déjà est important, donc est-ce que la maison est située dans une rue qui est assez alimentée par un réseau assez, assez costaud. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une voiture, ça tire quand même l'électricité quand on la charge. Puis, sans rentrer dans la technique, mais je pense qu'il faut voir si l'installation de la maison est assez récent ou apte à prendre cette charge.
Et puis le vrai plus, c'est les panneaux solaires, évidemment.
Les panneaux solaires, ça c'est le nec plus ultra, parce qu'alors on arrive vraiment avec des énergies vertes à charger sa voiture. Et là, on est vraiment sur un cycle vertueux.
Et si la société vous paye votre voiture électrique et l'électricité, ben, elle finance vos panneaux solaires en aussi. Même temps. Donc, il y a vraiment un écosystème où tout le monde gagne.
C'est ça. Erwin, évidemment, le véhicule électrique est au service du confort de l'utilisateur, mais l'avantage suprême, c'est évidemment de contribuer à cette stratégie zéro carbone à l'horizon 2050. Ça, ce sont les objectifs européens. Comment est-ce que le véhicule électrique véritablement s'inscrit dans cet enjeu ?
Il est clair que dans sa production, la voiture électrique est plus polluante qu'une voiture traditionnelle. Mais il y a beaucoup d'études entre-temps qui ont été développées qui démontrent clairement qu'après 20 000 km, en fait, la voiture confirme son statut de transport écologique.
Alors, un autre point aussi qui est très important, c'est la sécurité, le confort. Et là, je me tourne toujours vers vous, Thierry. Grosse batterie, est-ce que ça veut forcément dire moins d'espace dans l'habitacle ? Au quotidien, certains sont peut-être réticents. On se demande si la voiture va être assez grande, assez confortable, assez sécurisée. Les standards sont les mêmes ?
En fait, les voitures électriques sont pour une taille équivalente à une voiture essence, ont plus d'espace intérieur. Parce que le moteur thermique est plus gros et la batterie de la voiture électrique se met en dessous du châssis. Ce qui permet aussi d'avoir un fond plat. Donc ça veut dire que vous n'avez plus le tunnel. Quand vous avez les trois places à l'arrière, souvent la personne qui se met au milieu a ses genoux pratiquement aux oreilles parce qu'elle a ses pieds sur le tunnel. C'est fini. J'ai deux enfants, des adolescents qui sont pratiquement plus grands que moi. Quand ils se mettent derrière, ben, ils sont à l'aise. Il y a un chien qui vient dans le coffre aussi. Donc il y a un grand coffre. Donc vraiment, je pense que le confort, l'habitabilité sont vraiment même mieux qu'un véhicule thermique conventionnel. Aussi, tout ce qui est sécurité. Sur une voiture électrique, vous avez de manière standard toutes les assistances possibles. Donc tout ça est monté, tout ça est géré par une application GSM aussi. Donc on arrive au niveau confort, par exemple, allumer son air conditionné avant de partir le matin ou le midi quand le soleil a tapé toute la journée de sa voiture. 10 minutes avant de partir, la voiture est à température. En hiver, la même chose, on met le chauffage avant de partir. Le matin, les vitres sont dégivrées. Tout ça, ce sont GSM.
Et ça, c'est pas possible avec un véhicule thermique ?
Pas du tout. Ça, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment propre au véhicule électrique parce que justement, il vit sur sa batterie, c'est l'air conditionné est électrique, il faut pas qu'il y ait un moteur qui tourne, etc. Et si on le fait même quand la voiture est encore branchée, on consomme même rien de la batterie parce qu'elle prend directement du chargeur, en fait.
Et dû à la batterie aussi, les sièges dans la voiture sont un peu plus élevés. Donc moi, je trouve personnellement, je suis une personne assez grande, je trouve que l'accès à la voiture électrique est beaucoup plus facile pour entrer et sortir de la voiture qu'une voiture traditionnelle.
La voiture électrique idéale, finalement, c'est quoi ? C'est une voiture familiale, c'est une voiture citadine, c'est une voiture qui est plutôt faite pour les vacances. Quel est finalement le meilleur usage du véhicule électrique, s'il devait y en avoir un seul, ou alors peut-être que c'est un mix de tous ces facteurs.
C'est un mix, hein. Donc la voiture électrique au niveau de la ville, c'est top parce que on consomme encore moins que sur une autoroute. Le fait d'accélérer et de freiner dans une ville, le freinage recharge la batterie. Donc je pense que là, il n'y a pas photo pour les villes qui ont comme target émission zéro. La voiture électrique, elle a l'émission zéro à l'utilisation. Au niveau pour partir en vacances et les grands trajets, il n'y a pas de problème non plus. Comme je disais, j'ai deux enfants, j'ai un chien, on part en vacances. C'est grand, c'est confortable, il y a de la place. Donc là, on s'y retrouve aussi. Et alors, au niveau sécurité, je veux dire, quand on passe un peu trop sur la ligne blanche, elle se corrige, donc elle aide. C'est vraiment une paire d'yeux extra sur la route pour garantir la sécurité de tous les occupants de la voiture.
Et en plus, vous êtes partenaire d'un célèbre événement sportif qui se fait principalement à deux roues.
Oui, tout à fait. Donc le Tour de France et le cyclisme, effectivement. Skoda a commencé constructeur de vélos. Et puis constructeur de deux roues et de quatre roues. Et donc, on a toujours gardé le fil. Et donc, effectivement, on est très fort lié au cyclisme.
Alors, dans ce podcast, il y a une séquence qu'on adore. Elle s'appelle Myth vs Truth, où l'on démystifie un cliché ou une fausse information. Thierry, j'entends encore souvent qu'une voiture électrique... Avec sa conduite, on perd cette notion de plaisir, on n'entend pas ce moteur vrombir, on n'a pas les petites aspérités. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Mais comme j'ai dit au début, j'aime bien rouler. J'aime bien les voitures sportives, et donc je roule en Enyaq électrique. 300 chevaux, moi je trouve que l'agrément de conduite d'un véhicule électrique est vraiment supérieur aujourd'hui à un thermique, de par le fait que on a un couple qui est disponible directement, donc on ne doit pas d'abord aller chercher dans les tours comme un moteur thermique classique. De par le fait, quand je disais que la batterie se trouve sous le châssis, on a une tenue de route quand même qui est vraiment très bonne, hein, parce que le poids est vraiment, la voiture est vraiment tirée vers le bas. Donc au niveau agrément de conduite et sensations, la route, c'est vraiment très agréable. Et alors, comme je disais, bon, l'utilisation au quotidien, le confort d'utilisation, une voiture électrique est une voiture automatique. Donc il y a plus de vitesse, plus d'embrayage. Donc dans la journée, dans la vie de tous les jours, pardon, c'est un grand confort en fait.
Erwin, vous qui rêvez de garder le châssis d'une DS et de l'électrifier, j'imagine que vous n'allez pas aller à l'encontre de ce que dit Thierry en termes de sensations.
Non, pas du tout. J'avoue que pour moi, rouler une voiture électrique, c'est vraiment un moment de zen. Je suis un de ces chauffeurs qui cherche vraiment à tester jusqu'où on peut aller et de maximaliser ou de minimaliser la consommation d'énergie de la voiture. Mais il y a d'autres qui veulent juste profiter de la capacité d'accélération de la voiture. Et pour moi, là, je rejoins Thierry tout à fait. La voiture électrique est tellement... polyvalente, qu'il répond à tous les profils des conducteurs. Et c'est vrai qu'une fois qu'on dépasse les 100 km, la consommation d'énergie s'accélère, mais il ne faut pas le dramatiser non plus. Vous ne devez pas changer votre style de conduite, en fait.
Mais une fois que les voitures sont lancées, j'ai souvent entendu dire que c'était le véhicule thermique qui était avantagé.
C'est vrai que si vous voulez rouler à 200, 220, 240, les électriques ne sont pas appropriées pour faire ça.
Ça, on ne conseille à personne de faire ça.
Voilà, en plus, faites ça en circuit, mais pas sur la route. Mais à part ça, de plus en plus, je vois que les voitures électriques sont tout à fait comparables à la voiture thermique et répondent à toutes les demandes, à tout le profil d'utilisateur.
Alors Thierry, on s'approche de la fin de cet épisode de la voiture du futur, mais j'aimerais d'abord discuter de la voiture d'après-demain. Les fonctionnalités, les caractéristiques des voitures évoluent, vous l'avez dit, dans le sens du confort, de la sécurité, de la performance. Mais après-demain, est-ce qu'encore une fois, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience conducteur qui va continuer à guider les grands progrès qui vont se faire dans l'industrie de l'automobile ?
Oui, je pense. Donc avec le véhicule électrique, on va plus axer sur l'équipement. Les voitures vont être full équipées de base. Donc la différenciation entre les finitions, ça va plutôt être la capacité de la batterie, en fonction du besoin du client. Mais les voitures seront toutes équipées des systèmes de sécurité au dernier cri, confort, etc. Ça va aussi donner la possibilité de simplifier le processus de production d'une voiture, vu que toutes les options seront sur toutes les voitures. Et alors... au besoin, on pourra même les activer. Donc, si on n'a pas commandé l'option à la commande, on pourra l'activer. Disons, voilà, je pars en vacances, j'ai besoin d'un GPS pour 2 mois. La façon de parler, hop, on peut l'activer pour 2 mois via son smartphone. Donc, le produit va vraiment coller aux besoins du client à chaque moment de l'utilisation. Et alors, on va aussi travailler avec des produits de leasing, naturellement aussi, qui vont être de plus en plus adaptés. On parlait du plan cafétéria, on parle aussi des private lease. On va aussi probablement commencer à avoir des produits de leasing avec une durée plus longue. Maintenant, on travaille souvent sur les 48 mois. Erwin a plus d'expérience, on va peut-être passer à du 60 mois, voire plus.
Justement, on va faire appel à l'expérience d'Erwin. Quelles sont les attentes des utilisateurs? Est-ce que c'est justement ces durées beaucoup plus longues? Est-ce qu'il y a d'autres attentes en termes de location de ces véhicules?
Mais je ne sais pas si c'est les attentes de l'utilisateur. En tant que Etias, on a lancé Etias Lease justement avec comme point de départ la réalité de la voiture électrique plutôt que la voiture thermique comme la plupart des leaders le font. Et justement, le standard qu'on met dans le marché, ce n'est plus 48 mois, c'est 60 mois. Et aller jusqu'à 72 mois en disant que l'utilisation de la voiture électrique permet justement de casser les modèles traditionnels de leasing. Ce qui permet au même moment aussi de mieux générer les coûts et les amortissements et donc de répondre aussi à un besoin qu'on voit actuellement sur le marché, c'est que tous les coûts explosent, les voitures deviennent plus chères, les sociétés se voient exposées à une explosion de leur budget de mobilité. On essaye de donner une réponse qui va dans un autre sens.
C'est ça, donc garder plus longtemps pour réussir à fractionner le coût et, voilà. Et mieux l'amortir dans la durée.
Oui. Tout à fait. Au niveau de la technologie, pour rebondir sur ce que Thierry disait, moi je vois trois volets dans l'évolution de la technologie. Premièrement, il y a l'évolution technologique sur la batterie, donc la densité de la batterie avec la solid state battery qui va permettre d'être plus efficace au niveau du stockage de l'électricité avec des batteries plus petites. Soit on garde la même taille de batterie avec une autonomie plus longue ou on réduit la taille de la batterie avec un poids moins important. Le deuxième volet pour moi, c'est tout ce qui est bidirectionnalité de la batterie, parce qu'une batterie d'une voiture électrique, elle a 3-4 fois plus de puissance de stockage qu'une batterie à la maison.
Bidirectionnalité, c'est la possibilité d'utiliser la charge du véhicule à des fins de ménage, à domicile.
Tout à fait. Ce n'est pas le futur. Et donc, déjà dans les autres pays, c'est une technologie qui est utilisée. Mais en Belgique, moi je m'attends d'ici 3-4 ans, la voiture bidirectionnelle fera son entrée sur le marché belge. Le troisième volet, ça pour moi c'est au plus long terme, c'est tout le confort autour du chargement. Pour moi, le câble il doit partir d'une manière ou d'une autre. Moi je m'attends à ce que le secteur développe des solutions dans lesquelles la carrosserie de la voiture commence à capter de l'énergie solaire, le transmet dans la batterie ou dans les routes et sur les places de parking. Il y a des réseaux de chargement par induction qui sont intégrés pour justement faciliter encore cette utilisation de la voiture électrique. On parle ici d'un horizon de peut-être 15 ans, 20 ans.
Ouais, avec... Au lieu du toit panoramique, c'est un toit solaire qui pourrait capter, on peut imaginer, ça c'est pas de la science-fiction.
Non, ça existe déjà, ouais. Il y a déjà des marques qui des voitures qui l'offrent. Naturellement, tout va s'améliorer. Comme Erwin dit, le panneau solaire va être capable de capter de plus en plus d'énergie, donc de charger de mieux en mieux la batterie. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait un modèle où il fallait rester une semaine, donc 7 jours, garé dans une partie ensoleillée du monde. Hein, la batterie était chargée. Mais donc tout ça va s'améliorer, effectivement.
C'est extraordinaire, ça ouvre des perspectives fabuleuses.
Oui.
Parmi les innovations que citait Erwin, est-ce que certaines d'entre elles sont déjà testées dans vos centres de recherche, oui. Dans vos labos chez Skoda?
Donc l'induction déjà. Mais de nouveau, ça va main en main avec les gouvernements. Je pense que maintenant, il y a un test qui se passe en Allemagne. C'est une partie d'autoroute qu'ils ont équipée. Donc quand la voiture roule sur cette partie d'autoroute, elle a la possibilité de charger par induction. Mais donc ça demande aussi que l'État commence à investir aussi dans des routes à chargement et d'induction.
Merci beaucoup, messieurs, pour votre expertise. On a fait le point sur la situation aujourd'hui. On a tracé également des perspectives très intéressantes. Thierry De Vleeschhouwer, je rappelle que vous êtes directeur de Skoda Belgique. Erwin Olivier, vous êtes stratégie et change consultant chez Etias. Merci beaucoup, chers auditeurs. Si vous avez aimé notre podcast La voiture du futur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous y abonner. Merci à tous.